On appelle ça le New Deal mobile. En janvier 2018, les opérateurs de téléphonie mobile et l'État s'étaient mis d'accord pour accélérer l'équipement des campagnes en 4G. Promesse non tenue si l'on en croit l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécommunications, qui vient de rappeler à l'ordre les quatre opérateurs. Parallèlement, le plan France très haut débit, qui prévoit la couverture de 80% du territoire en très haut débit d'ici 2022, semble avoir pris du retard, sauf investissement nouveau. Selon la Cour des comptes et l'UFC Que Choisir, l'objectif ne sera pas atteint avant 2029 ou 2030. En attendant, 10% des Français ne bénéficient toujours pas d'un Internet de qualité minimale. Français vivant en zone rurale essentiellement, ce qui ajoute encore au sentiment de déclassement largement exprimé ces derniers mois. Alors comment accélérer le rythme au moment où la 5G va commencer à se déployer dans l'Hexagone? Comment éviter de reproduire les mêmes inégalités territoriales? Et comment familiariser à l'Internet ceux qui en sont exclus par simple méconnaissance parfois? Les enjeux économiques et sociaux sont immenses. Pour en parler, nos invités, Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms, qui représente les opérateurs. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
En ligne avec nous, Michel Sauvade, maire de Marsac en Livradois, dans le Puy-de-Dôme, référent pour les questions de téléphonie au sein de l'Association des maires de France. Bonsoir Michel Sauvade.
Bonsoir également à vous depuis l'Auvergne.
Et puis nous aurons en ligne dans un instant Christophe Daniel, membre de l'opérateur internet coopératif Scani. Fracture numérique, quand la déconnexion n'est pas un choix, c'est le téléphone sonne jusqu'à 20h. Vos questions, vos témoignages au 01 45 24 7000 ou sur la boîte mail de l'émission.
Yves Decamp, le téléphone sonne.
Premier à nous appeler ce soir, André, qui nous appelle de Rueil-Malmaison. Bonsoir à vous André.
Oui, bonsoir, je vous appelle de Rueil-Malmaison, mais il y a quelque temps, j'étais dans le Morbihan. Et je peux vous dire qu'au moment où on parle de 5G, excusez-moi, vous savez du terme à la mode, galvaudé, c'est du foutage de gueule. Ça fait des mois et des mois que je me bats avec le Conseil régional de Bretagne, avec Orange. Je suis à 3 km d'une petite ville qui s'appelle Beau, et qui est un des premiers à avoir reçu la fibre. Mais quand on a dit ça, on croit qu'on a tout dit. En réalité, ce qui se passe, c'est que les zones d'ombre, c'est pas 10% à mon avis, c'est beaucoup plus que 10%. Je monte souvent à Paris, je fais des allers-retours Bretagne-Paris. Il y a un péage à Brosséliande sur la route de Rennes. Quand vous essayez de téléphoner dans ce... vous arrêtez au péage, comme il faut le faire, à la station-service, comme il faut le faire. J'ai essayé de Skype, j'ai essayé de téléphoner, impossible. Chez moi, je me suis battu, ça fait 8-9 ans que je suis dans le Morbihan, ça fait 8-9 ans que si je n'avais pas la télévision par satellite, je ne pourrais pas regarder la télévision. Et d'autre part, on m'a promis la fibre. J'ai été en contact avec le responsable de la fibre en Bretagne. C'est des gens qui sont sympathiques. Orange vous promet des tas de choses. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que il faut rappeler 10 fois, 20 fois. Et le président du conseil régional, qui est plein de bonne volonté, qui a un extraordinaire plan de haut débit en Bretagne, quand vous avez sur votre sous-répartiteur, c'est un nœud de raccordement pour tout le hameau, où les lignes arrivent. Quand vous voyez pendant 8 ans le haut débit en Bretagne, et que vous avez une ligne qui a un débit tellement faible que même vos communications téléphoniques, parce qu'il ne faut pas parler uniquement du simple Internet, il faut parler, comme vous avez un abonnement, il faut parler du téléphone, il faut parler de la télévision, il faut parler de toutes ces choses-là. On m'a promis, vous allez avoir la fibre au moins jusqu'au sous-répartiteur, c'est-à-dire pas chez moi, mais jusqu'au sous-répartiteur, vous verrez, ça ira 10 fois mieux. Extraordinaire. On me l'a branché. Le lendemain, devant chez moi, en photo, dans Ouest France, se pavanait le maire de ma commune et le directeur régional d'Orange. Le lendemain, ils ont même pas attendu de savoir si ça marchait. Le lendemain, j'ai eu 50 coupures. Je ne pouvais pas téléphoner pendant 10 minutes sans que ça soit coupé 5 ou 6 fois.
Bien.
Etc.
On entend votre colère, André, oui.
Oui, et d'autant plus, si vous permettez juste que je termine là-dessus.
Allez-y.
C'est que, justement, j'ai dû appeler le 3900, on m'a donné des conseils, brancher les prises comme ça, etc. Un technicien est venu alors que j'avais un sous-répartiteur. Les gens n'ont pas besoin automatiquement d'avoir un branchement. Déjà, ça vous coûte beaucoup plus cher d'avoir la fibre directement chez vous, avec un sous-répartiteur. C'est-à-dire, ça arrive presque dans mon jardin. Ben, quand ça marche, ça va 10 fois plus vite. Maintenant, ça marche. Mais ça fait des mois que je me bats. Et comme j'ai la chance aussi d'avoir été candidat, on me ménage.
Bon, on a compris, Michel. André, pardon. Merci beaucoup. Et c'est Michel Combeau qui va vous répondre, directeur général de la Fédération française des télécoms. Donc, vous représentez les opérateurs, très largement mis en cause par André, et qui ont été mis en cause, pas plus tard qu'hier, par l'ARCEP. Hein. Les promesses n'auraient pas été tenues, donc.
Alors, oui, je pourrais déjà effectivement rappeler que je dirais tout le monde est sous pression, et l'ARCEP aussi, c'est aussi un petit peu cette pression qui amène effectivement à essayer d'accélérer en fait l'ensemble des investissements, des déploiements.
Donc l'ARCEP, autorité de régulation indépendante pour les télécoms.
Oui, voilà. Alors, sachant qu'effectivement c'est une mise en demeure anticipée, c'est ce qu'on fait toujours un peu l'image de l'arbitre qui donnerait un carton jaune avant même que le joueur ait fait une faute. Pour autant, en tout cas côté opérateur et avec l'État, on est tous mobilisés pour que les investissements et les déploiements progressent. C'est vrai, pour répondre à André, on peut comprendre cette frustration. Que ce soit ici cité, le problème de téléphoner depuis une aire d'autoroute, hein, la couverture des axes prioritaires est un des vrais axes de développement du New Deal pour y améliorer la couverture. Et c'est vrai que la Bretagne, notamment le Morbihan, il y a effectivement beaucoup d'investissements à réaliser pour y déployer la fibre et améliorer les réseaux existants.
Mais les opérateurs dans ce New Deal dont on parle s'étaient engagés à accélérer la couverture numérique 4G dans les campagnes. 3 milliards d'euros devaient être investis. On en est où ?
On en est effectivement que ces investissements avancent. Hein. C'est près de 1000 sites 4G qui sont effectivement créés chaque mois depuis la mise en œuvre du New Deal. Hein. C'est d'ici la fin de l'année 2022, l'intégralité du réseau qui sera passé en 4G et près de 5000 sites hein, qui ont été construits. Donc oui, effectivement, les choses avancent. Hein. Tout le monde est sous pression, comme je disais, car comme André, beaucoup de nos concitoyens attendent l'amélioration de cette couverture. Les opérateurs seront présents et nous aurons, en tout cas, feront notre maximum pour répondre à cette attente de nos concitoyens.
Alors, André le disait aussi, on parle maintenant de la 5G, alors que la 4G n'est pas partout possible. Comment va-t-on faire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ?
Alors, effectivement, ce qu'on peut déjà dire, c'est que la 5G va, au moins au départ, être surtout un élément attendu par les entreprises, hein, notamment pour leur permettre d'être compétitives, hein, dans cette compétition mondiale, et leur apporter ce nouveau service avec un temps de réaction très faible. Cela aussi permettra pour les zones très denses hein, d'apporter un surcroît de service. Pour autant, et dans le cahier des charges hein, dans le projet de cahier des charges qui a été publié par l'ARCEP au mois de juillet, une part effectivement du déploiement sera réservée pour les zones rurales. Hein, près d'un quart des sites qui seront déployés d'ici 2025 en 5G le seront dans les zones rurales. Donc là, effectivement, le New Deal nous a appris qu'il fallait à la fois déployer dans les zones denses, mais aussi dans les zones rurales.
Et les obligations seront inscrites dans le contrat d'attribution des fréquences.
Exactement, hein. Comme pour le New Deal, hein, tout est inscrit dans les licences et si effectivement les opérateurs sont en retard, ce sera à l'ARCEP de les contrôler.
Michel Sauvade, vous êtes en ligne donc du Puy-de-Dôme avec nous, un référent au sein de l'Association des maires de France pour toutes ces questions de téléphonie. Vous êtes en zone blanche ?
Alors, oui et non, c'est-à-dire on peut dire qu'il y ait des zones blanches qui soient à l'échelle d'un canton ou d'un arrondissement, mais le nombre de zones blanches de plus petite taille est suffisamment important pour que, par exemple, on ne puisse pas passer un appel téléphonique lorsqu'on est en déplacement ou bien qu'on se retrouve sur une zone, je ne sais pas, je vous donne des exemples personnels, où un départ d'incendie interdit de solliciter les pompiers. Enfin, vous voyez, ce type de choses auxquelles on est confronté en permanence. Et pas seulement pour les zones les plus éloignées. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas suivre une conversation téléphonique sur l'autoroute Clermont-Paris ou si vous vous rendez de Clermont à Vichy, très clairement.
Et alors, que peuvent faire les élus ? Vous êtes en liaison permanente, j'imagine, avec les opérateurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Alors, moi, je ne veux pas m'inscrire dans une logique d'opposition des uns et des autres. Hein. On est complémentaires et les élus ont aussi à gérer des collectivités, donc ils ont le sens des économies. Nous, ce que l'on souhaite, c'est qu'on trouve une sorte de chemin satisfaisant pour les uns et les autres entre la logique économique qui est celle des opérateurs de façon tout à fait acceptable et puis celle de l'aménagement du territoire. Et Michel Combeau vient de l'évoquer en rappelant à juste titre que dans le déploiement de la 5G, pour la première fois, est intégrée une notion de couverture des territoires et pas seulement une notion de couverture des personnes. On a trop subi pendant très longtemps l'argumentation qui consistait à dire que 95 ou 99% des habitants de la France étaient couverts en téléphonie mobile, alors qu'en réalité, si on se rapporte au territoire, on est très en dessous.
Alors vous êtes d'accord pour dire que un sous-équipement en numérique ajoute encore au déclassement dont souffrent vos territoires, évidemment?
Alors moi j'ai beaucoup apprécié le chapeau introductif de l'émission parce que ça recoupe exactement ce que nous pensons. Moi si je devais résumer ça en une phrase, je dirais aujourd'hui qu'on trouve un nombre de citoyens toujours importants, de plus en plus frustrés dans un monde qui est un monde de plus en plus mobile. Je crois que le tournant qu'on a mal pris, c'est celui du passage de la voix à la donnée. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'appeler d'un point fixe. Aujourd'hui, la mobilité, c'est se déplacer avec son téléphone, utiliser les données se repérer sur le territoire ou bien pour alimenter des applications ou obtenir des informations.
Qu'en est-il du haut débit chez vous? Parce que là, on parle de téléphonie, mais au niveau d'Internet, comment ça se passe en Auvergne?
Alors, l'Auvergne, d'une manière générale, pour Internet fixe, hein, on va dire, est plutôt pas mal loti dans la mesure où la région Auvergne, lorsqu'elle existait encore, avait mené une politique extrêmement volontariste de partenariat public-privé pour assurer la couverture des territoires qui étaient les territoires les plus isolés. Donc on est dans quelque chose qui est aujourd'hui acceptable globalement, même s'il y a là aussi des points qui ne peuvent être couverts par satellite. Et il y a un programme ambitieux qui est construit aujourd'hui par la région Auvergne-Rhône-Alpes et par les départements concernés, pour une couverture à la fibre de la quasi-totalité des logements. Donc on n'est pas les plus mal lotis. Moi je connais des régions dans le Nord, par occasion de discuter avec des collègues dans le secteur de Senlis, etc., avec une couverture qui était bien inférieure à ce que nous avons nous.
Un nouvel appel dans ce téléphone sonne, c'est Guy qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir à vous Guy, nous vous écoutons.
Bonsoir, oui, j'appelle parce que malheureusement j'ai l'impression que le législateur en matière numérique est toujours à la masse, comme on va le dire. Pourquoi y a-t-il si peu de mutualisation? Moi j'habite dans une grande ville, en bas de mon immeuble j'ai tous les opérateurs qui amènent une fibre optique depuis quelque part, chacun la sienne, hein. Pour ceux qui sont dans des zones isolées, vous voyez le niveau de luxe que j'ai. Dans les immeubles à côté de chez moi, y a autant d'antennes que d'opérateurs. Et pourquoi le législateur n'a pas imposé la mutualisation? Et puis de l'autre côté, pour M. Scani, pourquoi est-ce qu'on a aussi l'espoir que les opérateurs aient l'obligation d'ouvrir leurs fibres aux opérateurs alternatifs?
Alors on va...
c'est un élément de mutualisation aussi.
On va parler tout à l'heure des opérateurs coopératifs avec Christophe Daniel. Pourquoi n'y a-t-il pas de mutualisation, Michel Combeau?
Alors, je dirais que c'est même tout le contraire. Hein. Il y a un fort taux de mutualisation de toutes les infrastructures.
Pas chez Guy, apparemment.
Alors, effectivement, alors, je dirais, pour être précis sur la fibre, hein, il est clair, c'est que la fibre qui arrive chez l'abonné, où qu'il soit en France, est mutualisée. Il n'y a qu'une fibre qui arrive chez l'abonné. Et je dirais, le point d'arrivée de l'ensemble des réseaux des opérateurs va dépendre effectivement du nombre de logements. Ainsi, dans les grandes villes, en fait, chaque opérateur va se retrouver au pied d'un immeuble. Mais ensuite, la fibre sera mutualisée. En zone rurale, ce sera tout un quartier, toute une commune qui sera entièrement mutualisée. Donc, il y a un fort niveau de mutualisation dans la fibre optique. Et en matière de téléphonie mobile, il y a là encore un fort taux de mutualisation. Ainsi, dans le New Deal, c'est plus de 5000 nouveaux pylônes qui seront construits effectivement et mutualisés par l'ensemble des opérateurs. C'est effectivement un niveau de mutualisation qui n'a aucun équivalent dans le monde en France, pour justement améliorer la couverture du territoire.
Alors le plan France très haut débit, je l'ai dit, prévoit la couverture de 80% du territoire d'ici 2022. Ce que ne croit pas ni la Cour des comptes, ni l'UFC Que Choisir, pour qui cet objectif ne sera jamais atteint avant 2029. Réaction, votre sentiment à vous ?
Alors, il est clair, si on prend, je dirais, quelques grands chiffres, on a à peu près en ce moment sur une moyenne de 1 million de prises fibres installées par trimestre. On était en 2018 sur un peu plus de 3 millions par an, donc sur l'année déployée en fibre. On sera, je pense, en 2019, 2020 et jusqu'à fin 2022 sur une moyenne de 4 millions de prises par an. Donc oui, effectivement, le déploiement de la fibre avance. Je dirais, si on regarde les estimations, on sera à peu près à un peu moins de 30 millions de prises fibres déployées jusqu'à fin 2022. Pour autant, ce qu'effectivement il faut noter, c'est que d'autres technologies vont être, je dirais, mises en œuvre pour apporter le très haut débit à l'ensemble des foyers, qu'elles soient hertziennes. On peut même aussi utiliser la 4G chez soi pour faire un réseau Wi-Fi et ainsi accéder à l'Internet. Donc effectivement, nous sommes en tout cas en ligne avec les attentes du gouvernement en matière, je dirais, de déploiement de la fibre optique. Pour autant, c'est vrai, d'autres technologies devront être mobilisées en 2022 pour apporter le très haut débit.
Mais est-ce que, avant de miser sur le déploiement de la fibre, on ne pourrait pas accélérer le processus de modernisation des réseaux en cuivre déjà présents sur le territoire pour les connexions ADSL, par exemple? C'est ce que propose notamment l'UFC Que Choisir, pour qui la fibre optique pour tout le monde, c'est un mirage.
Alors, je dirais que c'est l'ensemble de ces technologies, et y compris ce qu'on appelle le fait d'apporter la fibre au sous-répartiteur, comme André le mentionnait tout à l'heure. C'est l'ensemble de ces technologies qui devaient être mises en œuvre, avec le souci de ne pas faire d'investissement à perte. Dit autrement, si on doit déployer une technologie, mais que dans 5 ans, cette technologie est à la fois obsolète et plus utile, on aura réalisé des investissements à perte. Donc il faut mobiliser toute technologie, y compris celle d'amener la fibre au sous-répartiteur, mais ne pas perdre en tout cas, l'objectif de déployer la fibre au plus grand nombre dans les prochaines années.
Michel Sauvade, vous êtes d'accord pour dire que la couverture numérique, notamment l'accès au très haut débit, c'est l'un des éléments les plus importants pour les Français, pour apprécier l'endroit où ils vivent et pour s'y installer aussi?
Très clairement, depuis plus de 2 ans maintenant, c'est-à-dire le moment où les Français se connectent à l'Internet plus depuis leur smartphone que depuis leur ordinateur fixe, c'est un enjeu majeur. Et nous, dans les mairies, quelles qu'elles soient d'ailleurs, je pense, jusqu'à présent, la première question qu'on nous posait, c'était celle de la présence de l'école ou du médecin. Aujourd'hui, sans caricaturer, c'est vraiment la question de la couverture mobile qui est demandée en priorité par les gens qui viennent s'installer chez nous. Et il y en a pas mal qui souhaitent effectivement avoir un cadre de vie qui soit somme toute assez sexy.
Alors en ligne avec nous également Christophe Daniel, membre de la société coopérative d'aménagement numérique Iconèse, la SCANI, qui est un fournisseur d'accès internet coopératif. Bonsoir Christophe Daniel.
Bonsoir.
Vous rassemblez des particuliers, des entreprises, des collectivités, vous êtes dans Lyon. Chaque utilisateur est copropriétaire du réseau, c'est le principe de la coopérative. Votre objectif, c'est quoi? C'est d'apporter le débit nécessaire aux endroits où les membres de la coopérative en ont besoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que dans Lyon, nous, on a pas mal de zones blanches, et donc il y a plein de gens qui n'ont pas accès à Internet. Donc on leur fournit un accès à Internet à peu près entre 8 mégas jusqu'à 40, 50, 100 mégas, en fonction des aléas du RTIEN.
Parce que beaucoup de gens croient que fabriquer Internet, c'est réservé aux grandes entreprises, qu'il y a une sorte de monopole des quatre opérateurs. Et pourtant, il y a quoi, des centaines de petits opérateurs en France?
Il y a une fédération qui s'appelle la fédération FFBN, où il y a à peu près une trentaine de membres associatifs, avec nous compris dedans, qui dans tous les départements de France et même d'outre-mer, qui permettent d'avoir des opérateurs alternatifs.
Mais vous installez, opérateurs de téléphonie, d'internet, ADSL, haut débit.
Non, Non, que de l'internet, pas de la téléphonie, parce que la téléphonie, c'est cher garder des quatre bof, Bouygues, Orange, Free et SFR. Là, on peut pas y aller. C'est déjà trop compliqué. Alors, donc, on fait surtout de l'internet.
Michel Combeau fait non de la tête.
Oui, enfin, je veux juste rappeler que délivrer un service téléphonique peut être fait par n'importe qui. On peut même effectivement faire ce qu'on appelle de la voix sur IP, y compris sur un réseau internet. C'est effectivement assez simple. Et il y a au-delà, des quatre grands opérateurs, il y a beaucoup de petits opérateurs, à la fois les opérateurs coopératifs, mais aussi des petits opérateurs sur internet, opérateurs entreprises, dont nombreux sont membres de la fédération, qui justement apportent, y compris même uniquement, un service de voix sur internet.
Alors Christophe Daniel, comment faites-vous d'un point de vue technique?
Bah nous on prend des antennes du type Wi-Fi et on fait des bons. Alors on va à un accès où on peut avoir de la fibre. On met une antenne sur le toit du bâtiment et on repose des autres antennes pour faire un réseau maillé avec des antennes Wi-Fi qui ont une portée entre 10, 15, 20 km. Mmh. Et on la ramène au fur et à mesure. Comme ça, l'internet aux sociétés, aux collectivités et aux particuliers, pour ceux qui n'ont pas assez de débit.
Mais ça reste très local.
On fait déjà tout le département, donc on a déjà à peu près plus de 700 connexions et on a 660 membres sur tout le département. Et comme c'est du hertzien, on veut faire que du local parce que un réseau Wi-Fi ou réseau hertzien, on va dire, faut que ça vive et faut que les gens soient là en local.
Alors vous intervenez aux endroits où la collecte de données est abordable financièrement et performante techniquement, c'est-à-dire que vous excluez les villages les plus isolés?
Non, pas du tout. Ça dépend des gens qui nous contactent et la motivation des personnes qui nous contactent. Parce qu'en général, ils se plaignent des quatre opérateurs et disent voilà, ça marche pas, etc., etc. Ils viennent chez nous, on leur explique, on va leur expliquer ce que c'est qu'une société coopérative. Si vous voulez être branché chez nous, faut participer un peu. Si vous restez assis sur votre chaise, il se passera rien. Parce qu'on est tous bénévoles, pratiquement.
Vous êtes bénévole, vous intervenez.
Oui. Bénévolement, oui. Oui. On a un métier autre que de travailler chez Scani.
D'accord, mais ça demande quand même des qualifications particulières.
En général, on a pas mal. On a des informaticiens, on a des gens qui connaissent bien le réseau, et après, on a des gens qui montent sur les toits. Moi, par exemple, je peux pas monter sur les toits parce que j'ai le vertige, mais on a d'autres personnes qui montent sur les toits, qui branchent les antennes, mais on n'a pas forcément besoin d'avoir une compétence pure et dure pour faire de l'Internet. Toutes les personnes sont les bienvenues.
Et combien d'abonnés chez vous? D'abonnés quand même.
D'abonnés, nous on appelle ça des membres ou des coopérateurs. 660 membres. Mmh. Donc 660 membres, des collectivités, des entreprises et des particuliers.
Et au niveau des contrats, comment ça marche? Quelle est la différence avec les quatre opérateurs historiques, disons?
Nous c'est 30 euros par mois, une caution de 40 euros pour le matériel parce qu'on leur fournit l'antenne et la petite box Wi-Fi à l'intérieur. Et ils peuvent partir quand ils veulent, quand ils sont pas contents. Quand ils sont pas contents ou quand la fibre arrive chez eux, ils disent moi je préfère la fibre, etc. Ils s'en vont. Nous on a fait notre job, on a amené du haut débit, c'est pas grave, ils sont partis. Il y en a même qui restent d'ailleurs, qui gardent la ligne de secours Scani, même s'ils ont de la fibre optique.
Mais alors comment expliquer, Christophe Daniel, et après je vous laisse vaquer à vos occupations, mais comment expliquer que vous arriviez à résoudre les problèmes que les grands opérateurs n'arrivent pas à résoudre dans les endroits où vous allez?
Parce que nous, on fait que du local déjà. Donc on a besoin des gens, on discute beaucoup, on fait que du local, et surtout, on est des passionnés et ça nous amuse. On fait ça pour s'amuser, ça nous passionne. Et surtout qu'on n'avait pas un très bon débit dans Lyon. Donc on a dit, au lieu d'attendre les autres, on va le faire nous-mêmes.
Merci beaucoup Christophe Daniel de la Scani, Société Coopérative d'Aménagement Numérique Iconèse. Michel Combeau, un commentaire?
Je dirais que c'est effectivement le secteur des télécoms et aussi, je dirais, l'objet de nombreuses initiatives, et c'est aussi de la concurrence qui va aussi permettre à chacun de développer et de simuler, et comme le disait un ancien président de la Fédération française, c'est un peu le Père Noël. Souvent dans les télécoms, il y a beaucoup d'offres, beaucoup de prix bas, et c'est l'activité de l'ensemble de ces opérateurs qui va permettre à chacun de s'améliorer.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Nous parlons ce soir au téléphone sonne des zones blanches, des problèmes de téléphonie mobile et d'internet dans l'Hexagone avec un nouvel appel qui nous vient de Toulouse. C'est vous, Patrick, bonsoir à vous.
Oui, bonsoir Patrick, c'est bien moi.
Eh bien, nous vous écoutons, allez-y.
Donc moi, j'ai un côté moyennement objectif parce que je travaille pour un gros opérateur. Mais bon, malgré tout, je suis pas de cet univers initialement. Et je voulais demander à la personne qui est, on va dire, là pour présenter le côté professionnel, d'expliquer un petit peu comment fonctionne le développement de la fibre. Alors moi, je vais donner des exemples sans nommer de développement de la fibre, par exemple, dans certaines villes, certaines communes, certains quartiers. Expliquer la délégation pour les nœuds de raccordement, par exemple. Et par exemple, il y a des endroits où quand la délégation a été confiée à un opérateur, ça se fait dans l'année, voire dans les 6 mois. Il y a des zones où ça se fait en 4 ans. Donc le client final, le monsieur tout le monde là qui paye sa facture tous les mois, il comprend pas pourquoi la fibre est pas arrivée alors qu'elle est déjà au niveau du répartiteur, mais elle est pas à la maison. Ça, c'est l'envers du décor. C'est bien la concurrence, mais c'est aussi ça la concurrence. Comment expliquer qu'on a donné une licence à un opérateur qui s'est accroché pendant des années au gros opérateur qui est Orange et puis qui a mis du temps à développer son propre réseau. Et c'est aussi pour ça qu'il y a une qualité de service qui est moindre. C'est bien beau le low cost, mais la qualité est moindre aussi. Ça, c'est aussi l'envers du décor. Après, moi, je suis pas automatiquement objectif puisque je travaille pour Orange et chez Orange, mais j'étais client lambda avant d'être salarié d'Orange. Donc je sais un petit peu l'envers du décor et comment ça se passe.
Et justement, puisque vous êtes à Orange, en passant, tenez une petite question de Luc par mail qui nous demande pourquoi Orange ne rembourse pas systématiquement les abonnés en cas d'impossibilité de connexion pendant plusieurs semaines.
Il suffit de le demander et souvent c'est déjà fait automatiquement. Mais bon, je ne suis pas Orange, je ne suis pas le patron d'Orange, mais en tout cas, encore une fois, je sais que si c'est le cas, normalement, la personne a un remboursement automatique. Et si éventuellement c'est pas le cas, elle fait une réclamation et je pense qu'on lui remboursera sans problème. Mais je ne suis pas Orange, je ne suis pas représentant d'Orange. Voilà.
Merci beaucoup, Patrick. Alors, comment fonctionne le déploiement de la fibre? Comment choisit-on les zones à installer, Michel Combeau?
Alors, effectivement, je dirais l'enjeu du premier plan très haut débit. Il faut aussi rappeler que si l'électricité a mis 100 ans et développé sur l'ensemble du territoire, si le téléphone analogique a mis 50 ans, ça fait moins de 10 ans qu'on a commencé à travailler sur la fibre optique. Et il est clair, en fait, s'il y a des zones, effectivement, où les opérateurs déploient seuls la fibre optique et des zones où, parce que je dirais il y avait besoin d'un financement public, ce sont les collectivités qui ont choisi les opérateurs en charge de ce déploiement terminal. C'est ce que Claude disait, le déploiement au-delà du nœud de raccordement. Et après, c'est à chaque collectivité de contrôler en fait la vitesse de déploiement et de s'assurer que les déploiements se font en temps et en heure. Et c'est vrai que récemment, certains opérateurs ont repris en fait le déploiement dans certaines zones, dans certains départements, sur fonds privés, parce que justement les déploiements dans ces zones-là n'avançaient pas. Pour autant, dans certaines zones où les collectivités contrôlent ces déploiements avancent et avancent très bien. C'est aussi un déploiement collectif, je dirais, collectivité, État, les opérateurs, qui permettront de faire avancer la fibre optique. Il est vrai que c'est effectivement une attente de nos concitoyens pour être raccordés. Rappelons-le, ça fait moins de 10 ans que le plan très haut débit a été lancé et on n'en est pas encore au bout de nos investissements.
Michel Sauvade, comment se décident donc les zones à installer en priorité? Ce sont les collectivités locales qui établissent des priorités.
Alors, dans le cas où les secteurs ne sont pas jugés comme étant suffisamment financièrement intéressants par les opérateurs, il est d'ailleurs de ce point de vue assez amusant de noter que les zones initialement non intéressantes pour les opérateurs le deviennent progressivement et que ceux-ci tapent à la porte en disant on souhaite désormais profiter d'une clientèle qui s'est développée. Au-delà, dans l'échange qui a précédé, je crois qu'il faut être conscient que les élus, nous, notre rôle est vraiment de nous battre pour le dernier kilomètre, c'est-à-dire l'endroit le plus loin. Moi, je comprends la personne qui est d'autant plus frustrée que la fibre arrive à quelques dizaines ou quelques centaines de de mettre de chez elle, ou celui qui est obligé de faire quelques pas en dehors de sa maison pour répondre. Le rôle des élus, il est à ce niveau-là. Il est significatif d'ailleurs que le New Deal, ce que moi je préfère appeler le plan France Mobile, a été négocié entre les opérateurs et l'État, sans l'intervention des collectivités locales qui ont été mises dans la boucle par la suite. Ce qui d'ailleurs conduit à un certain nombre de petites difficultés aujourd'hui. Il y a un enjeu actuellement parce que le nombre de pylônes que l'on évoquait tout à l'heure à déployer apparaît relativement faible si on le prend en département, et ça soulève un certain nombre d'inquiétudes et de mécontentements.
Alors vous parliez des habitants vivant dans les zones les plus éloignées. Jean-Christophe par mail nous demande quelle est la solution pour les habitants effectivement qui vivent en bordure de département ou de région. Dans l'Orne par exemple, la seule solution qui lui a été proposée, c'est une parabole avec 150 euros d'aide, mais un double abonnement, et le débit y est très faible.
Alors, le débit peut être assez rapide. Par contre, ce qui pose problème dans le déploiement par satellite, qui est vraiment la solution de dernier secours, en quelque sorte, hein, c'est le problème de la tarification au volume échangé. C'est-à-dire que si vous avez une parabole, concrètement, vous n'allez pas pouvoir regarder de la télé en permanence ou voyez faire du trafic de données extrêmement important. L'élément bloquant, il a... Hein.
Et puis entre deux départements, entre deux régions, il y a parfois un problème administratif.
Alors, ça peut être problème administratif. Aujourd'hui, le système qui est mis en place pour la couverture mobile est un système qui associe des équipes projet au niveau des départements, mais également des équipes projet régionales. Et j'allais dire, on se connaît de part et d'autre des départements. Moi, je suis voisin de la Loire. Lorsque l'on fait des déploiements, il y a des échanges d'informations entre les uns et les autres, comme le font les opérateurs eux aussi pour assurer une couverture optimale. Hein. On est tous soucieux, non seulement de l'argent public, et de l'argent investi globalement dans l'opération.
Un nouvel appel qui nous vient de la Manche, de Tessy-sur-Vire. C'est bien ça, Dominique ?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous. Donc moi, je suis un peu dans le même cas que la personne qui est intervenue il y a deux ou trois appels, c'est-à-dire que j'anime une association, enfin j'en anime deux exactement, qui ont pris le parti de ne pas attendre les pouvoirs publics ou les opérateurs pour amener de l'Internet jusqu'en les foyers reculés des campagnes. Donc nous avons créé une première association en 2003 qui s'appelle la Toile de Tessy et qui aujourd'hui compte encore 150 foyers, enfin entités desservies, alors que la fibre optique commence à innerver le pays tout doucement. Et plus récemment, donc depuis 2017, dans le nord du Larzac, j'ai aidé à la création d'une autre association qui s'appelle la Toile du Larzac et qui compte aujourd'hui 50 personnes connectées, 50 foyers en zone rurale, là où très peu d'autres technologies pouvaient arriver. Donc ma question était, ça fait longtemps que j'entends beaucoup de gens se plaindre qu'ils n'ont pas d'Internet, notamment des petites municipalités, et à chaque fois j'ai apporté une réponse possible, mais ça n'a pas suffi pour déclencher la création, l'essaimage d'autres associations. C'est seulement en 2017 que j'ai pu faire quelque chose dans le Larzac. Évidemment, là-bas, les gens sont très volontaristes et sont allés jusqu'au bout. Aujourd'hui, ils sont super contents.
Et donc, vous nous dites pourquoi les communes continuent-elles à faire confiance aux grands opérateurs, puisque on peut faire autrement.
C'est pas forcément faire confiance, mais c'est ne pas attendre. Voilà, chaque fois qu'on peut le faire, chaque fois que la topographie le permet, les solutions radio sont en place. Ce qui manque, c'est surtout, une zone dégagée dans la législation française. Hein. L'ARCEP, par exemple, ne s'intéresse pas beaucoup aux initiatives associatives pour déployer de l'Internet. Et c'est bien dommage parce qu'on s'est aperçu, enfin j'ai eu l'occasion de participer à une séance de table ronde au Parlement européen et j'ai pu constater que ces choses-là sont prises en compte beaucoup mieux dans d'autres pays comme l'Espagne ou même l'Allemagne. Voilà. Donc en France, il y a un vide, c'est-à-dire il y a les opérateurs classiques. Il y a une foultitude de petits opérateurs, mais les associations, c'est considéré comme la cinquième roue du carrosse.
Merci Dominique, vous parlez de l'Espagne. Pierre de Paris nous écrit que son beau-frère espagnol a été très étonné quand il a réalisé qu'il n'avait pas accès à la fibre à moins d'un kilomètre de Paris alors qu'il l'utilisait très facilement quand il vivait à Barcelone. Michel Sauvade, sur ce que vient de dire Dominique, pourquoi ne pas faire appel à des petites coopératives, des associations qui travaillent là-dessus?
Alors, c'est très variable. Il y a des communes qui s'investissent là-dedans. Il y a même, à l'échelle de départements entiers, des syndicats qui regroupent des communes ou des intercommunalités pour conduire ce type d'opération. Mais je crois que c'est révélateur d'un problème qui est un petit peu le caillou dans la chaussure du dispositif en place, c'est-à-dire le manque de on parlait de mutualisation tout à l'heure, le manque de mutualisation de l'information. Au sein des équipes prochaines, nous éprouvons, nous, énormément de difficultés à obtenir des informations sur les déploiements en propre des opérateurs. Donc nous sommes chargés de proposer des implantations de pylônes pour couvrir des zones non couvertes au nom de la concurrence, qu'on peut comprendre. Hein. Il est extrêmement difficile d'optimiser ou de faire un travail qui soit vraiment mutualisé. On a obtenu quelques avancées, les opérateurs se sont engagés au niveau local à fournir quelques informations sur leur programme de déploiement, mais c'est loin pour nous d'être satisfaisant. Et concernant la mutualisation sur les pylônes, moi, je peux donner un certain nombre d'exemples, pas dans le cadre du New Deal, hein, où dans une même commune, deux opérateurs se battent pour mettre leurs pylônes sur le même terrain, voire installent deux pylônes à 30 mètres d'écart l'un de l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pouvait être accepté autrefois. Aujourd'hui, les habitants sont demandeurs de téléphonie, mais ils ont aussi des revendications environnementales affirmées.
Michel Combeau, la Fédération française des télécoms travaille avec tous les opérateurs, quels qu'ils soient.
Oui, alors déjà, je voulais quand même dire que je dirais les opérateurs ne sont pas sur leur transat en train de prendre l'apéro sous le parasol, mais investissent et déploient, je dirais, les réseaux de manière industrielle. Hein. Pour le rappeler, effectivement, la fibre optique, c'est quand même un large chantier, c'est le plus gros chantier industriel hein, de ce. Actuellement, c'est près de 20 000 emplois qui vont être mobilisés, je dirais, en haut de la capacité de déploiement de la fibre optique. Voilà. Mais effectivement, je dirais, toutes les initiatives sont les bienvenues. Je dirais, là, comme je disais, c'est la concurrence hein, qui va faire bénéficier aux citoyens des meilleurs services. Et qu'une association sur le terrain souhaite déployer son réseau, au contraire, ça va permettre d'éduquer l'ensemble des citoyens à l'usage du numérique. Ce qui, pour nous, est important, c'est que les consommateurs puissent avoir accès à l'ensemble des technologies. Alors pour répondre à Michel Sauvade, ce sont des échanges que nous avons très régulièrement. Les opérateurs, effectivement, les opérateurs sont en concurrence, donc ils ne peuvent pas, je dirais, partager leurs informations de déploiement avec leurs concurrents. Pour autant, je dirais, au niveau local, nous avons des échanges très fructueux. Il faut le rappeler, hein, le New Deal a été signé il y a déjà près d'un an entre l'État, l'ARCEP et les opérateurs. Il a fallu mettre au point aussi l'ensemble de ces processus, hein, parce que notamment lorsqu'on déploie un nouveau pylône dans le cadre du New Deal, le choix a été fait par les élus et les collectivités, ce qui nécessite de nombreux échanges techniques pour arriver à s'assurer que le pylône répondra bien à la demande de nos concitoyens.
Alors tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur du monde des opérateurs, puisque Laurent sur Twitter nous dit que dans la vallée de l'Oisans en Isère, la seule présence c'est Orange et que les abonnés aux autres opérateurs sont empêchés de tout accès.
Oui, effectivement, là, pour le coup, même si je connais bien effectivement l'Isère et la vallée de l'Oisans, on y était effectivement il y a deux ans avec Julien Normandie à Besse-en-Oisans, justement pour lui faire prendre conscience.
Le secrétaire d'État, oui.
Exactement, je dirais des problèmes aussi administratifs hein, et des longueurs sur le déploiement des pylônes. En l'occurrence, hein, l'ARCEP étant le régulateur, sera capable d'arbitrer tout différent entre opérateurs en cas de problème de l'accès à un réseau d'un opérateur par un autre. Là, pour le coup, moi, je n'ai pas à me prononcer sur des différends entre opérateurs.
Un nouvel appel, sans doute le dernier ce soir, c'est Charles qui nous appelle du Maine-et-Loire. Bonsoir à vous Charles.
Bonsoir. Eh bien écoutez, oui, je suis dans le Maine-et-Loire et voilà, je m'interroge car j'habite dans le Maine-et-Loire depuis maintenant deux ans et j'ai découvert lors de mes premières factures que j'avais une prime de 8,50 € mensuelle pour éloignement.
Une prime
ça, oui, de taxe.
Ah, une taxe.
Une taxe. Taxe d'éloignement. Mmh. Et on m'a répondu que oui, effectivement, j'étais éloigné du central qui est géré par Orange, apparemment, qui relève de l'opérateur historique qui est France Télécom, hein, bien sûr. Mais tous les quatre matins, je suis, comment dirais-je, coupé d'Internet. Mmh. Voilà, et puis... je n'ai toujours pas de réponse quant à cette taxe d'éloignement.
Alors, c'est un peu la double peine, là. Donc, mauvaise connexion et en plus une taxe. Michel Combeau, de quoi s'agit-il ?
Alors, il faudra regarder effectivement la situation en particulier, parce que pour le coup, autant les opérateurs payent de nombreuses taxes. Hein, il faut rappeler que les opérateurs payent près de plus d'un milliard, 200 millions d'euros chaque année de taxes spécifiques sur les opérateurs à titre divers et variés. Autant eux ne mettent pas de taxes sur les abonnés. Il peut y avoir effectivement des différences dans les abonnements. Effectivement, quand vous avez un abonnement, on peut avoir des différences. Donc, c'est peut-être effectivement cette différence de prix qui peut être mentionnée. Mais là encore, effectivement, c'est tout l'enjeu du plan fibre et du New Deal, c'est d'apporter plus de services et donc à la fin plus de concurrence pour nos concitoyens. Donc voilà. Mais après, j'ai pas forcément moi de réponse au cas particulier, mais en tout cas, voilà, les opérateurs subissent des taxes. Eux, par contre, eux n'en répercutent pas aux concitoyens.
Un dernier mot, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, pour revenir à la 5G, les enjeux sont énormes. Hein. Michel Combeau, rappelons que la 5G, c'est pas de la 4G améliorée, ça va beaucoup plus loin. C'est un débit 20 fois supérieur, un utilisateur qui sera suivi au plus près. Donc l'enjeu est encore plus énorme qu'avec la 4G.
Oui, il est aussi
l'enjeu économique et social.
Je dirais qu'on a aussi progressé depuis la signature du New Deal, le plan fibre, nous montre qu'il y a une vraie appétence de nos concitoyens et des entreprises pour toutes ces nouvelles technologies. Et je pense que nous sommes armés maintenant pour la 5G pour arriver en tout cas à un déploiement qui va aussi se concentrer sur la demande. Demande est importante parce que déployer un réseau doit être rentabilisé et donc de s'assurer qu'on le déploiera en premier sur les zones où il y aura effectivement cette demande, qu'elle soit en zone rurale ou en zone urbaine. Si une entreprise, et c'est ce qui est prévu dans le cahier des charges, est en zone rurale et souhaite être connectée par la 5G, elle aura le droit de demander à l'opérateur de venir déployer dans sa zone d'activité, dans sa zone rurale. Et effectivement, on a appris beaucoup collectivement et on va continuer d'apprendre.
L'objectif, c'est 2/3 de la population couverte en 2026.
Exactement, c'est effectivement un déploiement ambitieux qui va nécessiter des investissements importants côté opérateur, pour justement permettre de faire de la France un vrai territoire 5G et connecté dans les prochaines années.
Michel Sauvade, vous espérez beaucoup dans la 5G, vous l'aurez ?
Non seulement on la revendique, mais derrière l'image un peu stéréotypée de la 5G, de la voiture autonome, etc., il y a des enjeux spécifiques aux espaces les plus ruraux. Je peux vous donner deux ou trois exemples très simplement. C'est celui de la télémédecine, qui a été d'ailleurs reprise par la secrétaire d'État auprès du ministre des Finances. Ce sont les enjeux de l'agriculture. Actuellement, il y a des expérimentations sur la 5G qui sont réalisées dans un certain nombre de métropoles. L'expérimentation conduite à Lille intègre une partie, un volet sur l'agriculture.
On va être obligé de conclure, Michel Sauvage.
Voilà, toutes les questions de maintien à domicile. Donc pour nous, la 5G, c'est un enjeu majeur dans lequel on veut être associé dès l'origine et ne pas être écarté et prendre le train.
Merci beaucoup, Michel Sauvade, dans le Puy-de-Dôme, référent de l'Association des maires de France. Merci à vous, Michel Combeau, directeur général de la Fédération française des télécoms.
Merci.